Bonjour et bienvenue dans l'épisode 65 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode interview. En effet, on va parler d'une thématique que je n'aurais pas su parler toute seule, évoquer toute seule. Aujourd'hui, on va parler de sécurité financière, on va parler de finances, on va parler d'argent, on va parler aussi et surtout de comment se mettre en sécurité quand on est entrepreneur et comment dédramatiser ce sujet qui parfois est tabou ou nous fait clairement peur, surtout quand on est dans le domaine du bien-être. Julie de Protège ton bise va nous évoquer les choses vraiment importantes à savoir quand on est entrepreneur et qu'on doit s'occuper de notre sécurité financière. On parlera des choses à mettre en place, comment les mettre en place et comment faire les choses le plus simplement possible, mais surtout, on va dire étape par étape pour être en sécurité assez rapidement dans son entreprise et aussi du coup dans sa vie perso. Je te laisse écouter mon introduction et on se retrouve juste après pour découvrir tous les conseils de Julie pour mettre en place une sécurité financière en 2024. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête à tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode interview. Je suis ravie de recevoir Julie de Protège ton bise, qui est agente d'assurance et prévoyance et patrimoine. Tu accompagnes les pros et les particuliers sur leur protection et développement de leur argent. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de ce sujet qui parfois fait peur, qui est la sécurité financière. On va vraiment évoquer plein de petites choses pour justement dédramatiser ce sujet qui paraît parfois insurmontable. Et moi, je suis clairement adepte des épargnes, de la gestion financière, etc. Et j'avais envie de l'introduire et d'en parler avec mon audience. Donc merci beaucoup pour ta présence sur le podcast et pour tout ce que tu vas nous partager ici. Bienvenue et je vais te laisser te présenter parce que tu as sûrement beaucoup plus de choses à me dire que ma petite présentation pour qu'on comprenne bien ton métier et qu'on comprenne du coup pourquoi tu vas nous partager tous ces petits conseils. Bienvenue.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Pour ne rien cacher, c'est mon premier. Donc un peu de stress, un peu d'appréhension, mais tout va bien. Du coup, mon métier, donc en effet, comme tu l'as dit, je suis agent d'assurance prévoyance et patrimoine. Je l'aime pas trop parce qu'il définit, il est un peu, il me définit pas en tout cas, tout simplement parce que moi, mon métier, donc en effet, je le prends à cœur. Donc pour la petite histoire, ça fait 15 ans que je suis dans l'assurance. J'ai passé 11 ans en tant que collaboratrice d'un cabinet d'assurance pour tout ce qui était généraliste, auto, habitation, tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Sauf qu'au bout de 11 ans, ça ne me parlait plus et j'avais envie que d'une chose, c'est de m'occuper de lui-même. Donc j'ai eu une petite période de transition parce que je voulais aussi entreprendre. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment et j'ai sauté le pas pendant le Covid. Bon, voilà, enfin, après le Covid notamment, ça n'a pas été facile, mais ça a été le tremplin de ma vie. Et donc du coup je suis passée par une boutique en ligne, du marketing de réseau, enfin j'ai fait plein de choses qui m'ont appris tellement. Et puis finalement l'assurance est revenue à moi, donc on m'a proposé de devenir agent général, mais cette fois spécialisée sur la protection des personnes, sur ce qu'on appelle de l'assurance de personnes, et sur le côté financier aussi, dans principalement que du conseil. Et là, ça a fait vraiment écho en moi, donc j'étais toujours entrepreneur, donc j'avais cette ambition-là, et aussi l'humain, donc voilà, tout tournait autour de l'humain, donc j'ai sauté le pas, donc il y a maintenant 2 ans, Et depuis, ben, je m'éclate clairement. Voilà, parce que ben, j'ai un sens en mon métier, je protège les gens, je protège pas les gens parce que je ne peux pas éviter l'accident ou la maladie ou autre. Par contre, je les protège financièrement. Voilà, je leur enlève une épine du pied quand il y a ce pépin, en fait. Et là, ça me parle tellement. Voilà, donc cette partie-là, et après aussi l'accompagnement aussi sur tout ce qui est éducation financière qui manque énormément en France. Notamment dans l'entrepreneuriat, mais pas que, hein, c'est généraliste quand même, mais l'entrepreneur est souvent seul face à des choses qu'il n'avait pas conscience et c'est aussi cet accompagnement que je propose. Voilà.
Super. Ah, mais c'est génial d'avoir des personnes comme toi et de découvrir qu'il y a des personnes comme toi qui existent parce que c'est clair que on nous apprend pas à gérer une entreprise, on nous apprend un métier et ensuite on a en nous ou non l'envie d'entreprendre et c'est vrai que parfois on se retrouve face à des questions financières, des doutes, clairement des non-informations en fait sur toute cette partie-là, toute la partie sécurité, assurance aussi. Hein. Moi, clairement, là, je viens de sortir de quasiment 8 mois de négociation pour trouver une assurance pour mon activité, etc. Et en fait, ça nous paraît tellement une montagne, je pense, qu'on a tendance à faire l'autruche, clairement. Enfin, moi, je l'ai fait. Il y a eu des périodes où je l'ai fait et je connais plein de personnes qui font un peu l'autruche là-dessus parce qu'en fait, ça paraît tellement insurmontable. On ne sait même pas en fait vers qui se diriger quand on a besoin d'aide à ce niveau-là et c'est plus facile un peu de ne pas regarder, de ne pas se mouiller que de se lancer vraiment là-dedans et c'est toute ma volonté aussi de t'accueillir sur le podcast pour justement, le titre de l'épisode c'est dédramatiser vraiment sa sécurité financière et voir que en fait il y a des choses peut-être très simples mis bout à bout qui vont vraiment nous sauver la vie entre guillemets d'un point de vue financier et que quand on est bien guidé et bien accompagné et qu'on prend le temps de prendre conscience que c'est vraiment important, je pense que ça peut vraiment jouer à notre faveur, mais tellement. Donc ça va être trop cool de pouvoir te poser tout plein de petites questions. On a fait le point ensemble pour faire le plan de cet épisode pour essayer de pas noyer l'audience sous trop d'informations. Donc toi qui nous écoutes, on va vraiment faire en sorte que ce soit le plus simple possible et donner des clés pour justement, à la fin de cet épisode, savoir par où commencer pour commencer à découvrir et à aller vers la sécurité financière. Et puis, il faudra pas hésiter de toute façon à poser des questions ou à contacter Julie après cet épisode si jamais il y a des choses qui restent... à développer ou au contraire s'il y a un passage à l'action qui veut être fait.
Tout à fait.
Alors, pour commencer cet épisode, je vais te poser une question qui j'espère n'est pas trop large, mais je pense qu'il est clairement nécessaire avant de commencer. Qu'est-ce que la sécurité financière ? Parce qu'on voit quand même, enfin moi en ce moment je suis vraiment dans un mood où je fais que ça, de regarder des masterclass, d'écouter des podcasts sur l'investissement, sur la sécurité financière, sur tous ces domaines qui en ce moment moi me plaisent énormément, mais il y a plein de petites variations de termes et parfois du coup ça peut aussi embrouiller l'esprit. Donc est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que la sécurité financière pour toi de manière globale pour qu'on puisse déjà avoir une entrée là-dessus.
Une introduction en effet. Alors, on va commencer un petit peu, je vais remettre un petit peu dans le contexte des personnes qui nous écoutent sûrement, puisque vous êtes toutes un peu indépendantes, je pense, la majorité. Donc, quand on se lance à son compte, en fait, souvent, ce qui s'est passé, alors j'en fais une généralité, bien sûr, il y a du cas par cas, mais on vient du salariat. On a été salarié toute sa vie, enfin, on a fait ses études, hein, on va partir du début. On a fait ses études, on a appris un métier. Ok, on a été embauché ou on a fait une alternance, peu importe. On est rentré dans le monde du travail. Et en fait, on ne se pose jamais de questions sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est materné un petit peu, si je pousse un petit peu la chose. On est materné, surtout en France, on a des sécurités déjà, notamment via la sécurité sociale. Et en plus, on a notre employeur qui va, lui, s'occuper de cette sécurité financière et mettre en place des choses qui vous fait signer au tout début de votre contrat. Je pense que ça parle à certaines, mais vous ne savez en aucun cas à quoi ça correspond. Vous savez juste que vous êtes protégé. Voilà. Donc, en fait, on est un petit peu dans un cocon. Et puis, quand on passe à l'entrepreneuriat, ben là, on est largué. Parce que, ben, tout simplement, on n'a jamais appris, on ne s'est jamais posé des questions. Et en fait, on est un petit peu un bébé dans le monde des grands. Donc on commence, qu'est-ce qui se passe? On commence son activité, on est focus sur ça. On est focus sur je crée ma boîte. Souvent, on passe par la micro-entreprise hein, pour la majorité. On crée sa boîte, on se débrouille parce qu'il n'y a personne. On demande des questions ou on regarde sur Internet. Hein, voilà, c'est la base. Hein. On fait comme on peut. On crée sa société, enfin, son entreprise. Et puis, on commence à chercher les clients. Voilà, on développe, on essaye de faire. On se met sur les réseaux, enfin, peu importe. Sauf qu'on ne se pose jamais la question s'il m'arrive quelque chose demain, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive bien plus tard. Bien plus tard. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a des personnes aussi qui ont peur. Qui ont peur et qui ne vont même pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que justement, elles ont cette conscience dès le début. Elles se posent déjà les questions. Elles se disent, oula, mais demain, moi, si je tombe enceinte, si je tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Voilà, souvent c'est le cas classique. Hein. Je ne vais pas avoir de protection, je ne vais pas avoir d'argent. Bon, bref, voilà, ça se pose. Donc, certaines, c'est carrément une barrière pour l'entrepreneuriat. D'autres foncent, et c'est très bien. Et en fait, la base, en fait, tout ça pour vous dire que l'important, c'est d'être accompagné dès le début. Pas forcément par un expert comptable, parce que je sais que c'est un budget. Mais il y a des entreprises, des choses qui sont spécialisées dans l'accompagnement de l'entrepreneur. Et ça, c'est vrai que c'est important d'être entouré, même si on est en micro-entreprise. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se considère micro-entreprise, donc on se considère petit. Mais je suis désolée, vous êtes aussi un chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il doit prendre des responsabilités et se poser toutes ces questions-là, que ça soit légal, que ça soit sur des droits, sur ce qu'il doit faire, sur sa responsabilité en tant que chef d'entreprise, surtout. Voilà. C'est important. Il faut arrêter de se considérer petit, en fait, quand on est en micro. Vous êtes un chef d'entreprise. Point. Voilà. Donc, la sécurité financière passe par la protection. Je me suis un peu évadée. La protection. Voilà, déjà, d'une base. Ça, c'est la base. En fait, se protéger avant d'aller investir, par exemple. Parce que tout simplement, si on investit sans se protéger, le jour où il y a le drame, ben, tout notre investissement, il part à la poubelle, entre guillemets. Voilà, il nous aide à survivre. Mais ce n'est pas le but. Okay, si on fait de l'investissement, c'est quand même pour avoir de l'argent, pour se sécuriser aussi, et pas de tout cramer parce qu'on n'avait pas prévu quelque chose. D'accord ? Donc voilà, donc la sécurité, donc se protéger, et après, aller investir sur des choses selon des stratégies, et ça aussi pareil, avec quelqu'un qui vous accompagne. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous vous faites accompagner parce que vous n'y connaissez rien et ça ne vous passionne pas, soit vous vous formez. Sur les investissements, sur les marchés financiers, etc., sur tout ça. Voilà. Il y a deux choix. C'est soit j'aime, je fais tout seul, soit je ne sais pas et je suis perdue, je me fais accompagner. Voilà.
Et du coup, la protection, ça passe par quoi? Parce que c'est vrai que c'est aussi, je trouve qu'il y a tellement de choses à réfléchir, à savoir qu'on ne connaît pas. En fait, il y a plein de termes. On nous dit, il y a URSSAF qui nous contacte d'à côté, il faut faire la mutuelle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on a tendance un peu à mélanger, en fait, tout ce qu'il faut mettre en place pour se protéger, en fait. Parce que je trouve que c'est pas assez clair, justement, quand on sort du salariat, on était couvé, comme tu disais, et quand on va se lancer, moi, je me suis lancée quand j'étais étudiante, donc j'étais même pas encore salariée. Enfin, j'avais été salariée pour un boulot saisonnier, donc, mais pas, du coup, dans mon activité. J'avais 19 ans, je me suis lancée, j'ai ouvert ma micro-entreprise, j'étais étudiante. Après, j'étais en alternance et après en agence, mais j'avais déjà ouvert ma micro-entreprise. Okay. Et clairement, je ne savais déjà pas comment l'entreprise où j'allais être salariée, allait me protéger. Alors, autant te dire que je ne savais pas du tout comment je devais me protéger. Moi, à 19 ans, j'étais hyper créative, mais pas du tout. Enfin, j'étais en panique de l'administration. Bien que j'avais fait un bac S, etc., moi, les chiffres, les machins, les trucs, l'administratif, ça me faisait flipper. Et j'ai fait des bourdes, hein, clairement. Une fois, j'étais radiée, je ne savais pas pourquoi. Enfin, bref. En fait, je payais trop, limite. Je payais tout le temps. Donc, j'étais hyper... Je savais que c'était fait et tout. Mais derrière toute la paperasse, en fait, vraiment, ça me faisait paniquer. Je ne faisais pas les choses dans l'ordre, je pense. Et je n'avais pas suffisamment conscientisé toutes les étapes à faire justement pour protéger, pour vraiment stabilité, pour faire les bases de l'entreprise avant, en fait, de vendre mes prestations, etc. Et du coup, quels sont les indispensables, les choses à mettre en place au niveau de la protection? Est-ce qu'il y a des termes que tu peux nous citer de manière simple, hein, les choses indispensables et légalement obligatoires à mettre en place.
Bien sûr. Alors, en fait, moi je dis toujours, quand on se lance en son compte, peu importe le statut, je dis toujours, le savoir, c'est pouvoir. Donc en fait, se renseigner, c'est pouvoir choisir. Parce que, en effet, il y a des choses à mettre en place. Par exemple, si on parle de la base, ça peut être la mutuelle. Tout le monde connaît une mutuelle. On a tous eu de la une mutuelle, que ce soit la boîte, etc. Ça nous parle un petit peu plus, puisque c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Donc, la première chose, c'est la mutuelle. Ensuite, la deuxième chose qui est souvent en question, c'est la prévoyance. Voilà, ça, ça vous parle peut-être un petit peu plus. La prévoyance, c'est une protection du chef d'entreprise en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, principalement. Donc là, c'est pareil. C'est, moi, souvent, j'ai des créateurs d'entreprises qui ne sont même pas encore créés, qui vont prendre rendez-vous avec moi et qui vont me demander, alors des fois, c'est un petit peu anticipé, mais qui vont me demander, en effet, qu'est-ce que j'ai droit par mon régime obligatoire. Donc, le régime obligatoire, c'est la sécurité sociale, mais des indépendants. Okay, donc, voilà, la SSI, vous avez peut-être déjà vu ce logo, qui remplace la sécurité sociale classique du salarié et qui vous donne des droits, mais qui sont très faibles, puisque le calcul n'est plus le même que celui-là de salarié. Donc, j'explique déjà les droits et ensuite, j'explique ce qu'on peut faire pour compléter. Voilà. Et après, on prend, on ne prend pas. Mais on le sait. D'accord ? Et aussi, donc ce qui est important, parce que souvent quand on se crée en France, l'avantage, c'est qu'on a le chômage. Voilà, on a le chômage. Donc c'est vrai que la première année, la question de l'arrêt de travail, il n'est pas trop évoqué, puisque si je suis au chômage, même si j'ai une maladie de 3 semaines, un mois, je ne vais pas le déclarer, je ne m'arrête pas. Quoi. Enfin, je ne m'arrête pas, je ne fais pas de déclaration à la sécurité sociale. Donc le chômage continue à me payer, donc ce n'est pas trop le sujet. Donc souvent, la première année, puis il y a cette portabilité aussi qui est souvent quand on sort du salariat et qu'on a le chômage, on a une portabilité, ce qu'on appelle sur la mutuelle et la prévoyance. Donc on est couvert quand même pendant maximum un an, d'accord ? Donc c'est à partir, mais par contre, ça n'empêche qu'on peut dans cette année-là commencer quand même à s'y intéresser, à se poser les questions.
Okay. Et oui, pas attendre le dernier moment.
Voilà. C'est ça, parce que c'est là, quand on fait dans la précipitation, qu'on fait des choses sans trop choisir et un peu à la va-vite. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre chose aussi qui est très peu connue des chefs d'entreprise. J'en parle, c'est pas, moi je ne le fais pas, mais je trouve ça très intéressant. Alors après, c'est à peut-être un autre niveau, parce que je ne connais pas le prix exactement et tout ça, mais il existe une assurance chômage pour les indépendants.
D'accord.
Privée. Ok, c'est pas Pôle emploi, hein, pour ceux qui la connaissent, mais c'est quelque chose, c'est un organisme d'assurance aussi qui propose des prestations si vous vous arrêtez pour X raisons. Bon, il y a des conditions, toujours pareil, hein, bien sûr, comme tout contrat d'assurance, mais qui vous permet, si l'activité ne marche pas ou que vous devez fermer pour X raisons, d'avoir une petite bouée de secours. Voilà, ça c'est peu connu aussi.
D'accord.
Et c'est en développement de plus en plus. Donc voilà.
Donc ça, c'est, on va dire, les trois grands points à savoir et à mettre en place dès qu'on se lance, quoi.
Alors, trois, il y a le quatrième, même j'irai pousser plus loin, qui est la retraite. Voilà.
Ah ouais.
C'est du social aussi, hein, c'est de la protection sociale, puisque là aussi, on cotise très peu, enfin, moins qu'un salarié, donc il faut aussi s'y préparer et compléter aussi par... et puis, on le fait jeune, mieux c'est. Voilà,
donc c'est la question que j'allais avoir souvent. Moi, je sais que là, c'est encore un peu flou. C'est le dernier point de ma to-do list de protection à mettre pour mon entreprise et pour moi personnellement. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, bon, ça va, j'ai encore un peu le temps. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que chaque année compte. Mais c'est sûr que quand... il y a tellement de choses entre la retraite, entre les assurances vie, parce que ça aussi, ça rentre en compte. Quand on le met aussi à titre personnel, de la sécurité financière. Et du coup, ça paraît de devoir faire beaucoup de choses, en fait. Et on se dit, ah, mais est-ce que je suis obligée de tout faire ? Est-ce que tout a un... Et je trouve que c'est difficile quand même de connaître la différence entre justement assurance vie, la retraite, le chômage, toutes ces choses-là qui peuvent du coup nous submerger. Et on peut faire étape par étape. Et comme tu dis, quand on sait qu'on vient de se lancer... je pense que ça sert à rien de vouloir, parce qu'on sait qu'on est encore un peu protégé, etc., de vouloir tout faire d'un coup, mais de cocher, en fait, comme une to-do list, de dire, ok, la mutuelle, elle est faite, je passe à la suite, et ainsi de suite. mais ne pas trop procrastiner pour quand même le plus vite possible être en sécurité.
Complètement. Déjà, la sécurité, la retraite, après, c'est vrai que c'est un sujet. Et moi, je conseille souvent lors de mes bilans, c'est vraiment de faire progressivement. En effet, première année, ok, bon, pas de besoin. À partir de la deuxième année, ben, mutuelle prévoyance. Mutuelle, des fois, ben, ça peut être couvert par monsieur parce que ben, il a l'entreprise, etc. Ben, il a celle de la mutuelle de salarié, je vais dire. Mais voilà, la prévoyance, c'est la base. Voilà, ça, c'est la base parce que sinon, c'est carrément tout qui peut s'écrouler du jour au lendemain et vous perdez tout ce que vous avez construit, quoi. Donc ça, c'est vraiment primordial, je dirais. La retraite, bien sûr, après, c'est en second temps, c'est selon l'évolution de sa boîte, selon les finances, bien sûr. Voilà, le but, c'est de monter, faire grossir son entreprise. Et c'est à un moment qu'il faut s'y pencher dessus, enfin, qu'il faut s'y mettre et pas trop attendre.
Et du coup, au sujet de la retraite, c'est l'entreprise qui s'en occupe ou c'est l'entrepreneur ? Parce que moi, je suis en société, du coup, je dissocie les deux. Quand on est en micro ou quand on est en société, est-ce que c'est le même principe ? Est-ce que c'est la personne, vraiment un titre personnel particulier ? Ou est-ce que c'est l'entreprise qui met en place des choses pour la retraite ?
Alors, il y a plusieurs sujets. La micro-entreprise, non, ça sera personnel, forcément. Puisque c'est comme une charge, on ne peut pas déduire ces charges. Alors, vous pouvez le faire prélever sur votre compte dédié à l'activité, mais ça ne sera pas déduit. Donc, il n'y a pas un gros intérêt. Mais le seul intérêt, il est que vous constituez votre capital pour une retraite complémentaire. Il n'y a pas d'intérêt fiscal. Deuxième cas, c'est l'entrepreneur qui est au réel, en entreprise individuelle, ou en SARL, ok ? Ou EURL, enfin EIRL. Okay, donc là, c'est l'entreprise qui cotise pour la personne. Donc là, il y a un avantage fiscal, ça s'appelle du Madelin. Ça vous permet peut-être de parler, mais voilà. Du Madelin, c'est un avantage, tout au même titre que la prévoyance et la mutuelle d'ailleurs. Hein. Donc là, c'est différent. Et ensuite, il y a la troisième possibilité, c'est tout ce qui est société telle que SASU. Voilà, qu'on rencontre aussi. Là, on est assimilé salarié. Donc, le fonctionnement est totalement différent. Tout dépend si on se verse une rémunération ou pas. Mais si on se verse une rémunération pour la mutuelle et la prévoyance, ça peut être ce qu'on appelle une collective, comme quand vous étiez salarié. C'est la société, là, dans ce cas-là, qui met en place. OK ? Et ça peut être pris en charge à 100%. La retraite, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Puisqu'on ne peut faire un plan d'épargne retraite collectif, donc de l'entreprise, que si on a un salarié. Enfin, un salarié en plus. Ouais. Voilà. Sinon, que pour le chef d'entreprise, on ne peut pas. Donc, il faut passer sur du perso au même titre que la micro.
Voilà. D'où l'importance d'être accompagné, parce qu'il y a quand même plein de choses qui diffèrent en fonction de notre statut et de nos objectifs aussi.
Oui, complètement. Il ne faut pas faire des bêtises, parce que moi, j'en vois des bêtises.
Bah oui, je me doute.
C'est pas grave en soi, mais bon, si on a un contrôle ou quoi, ça peut être, ça peut être mal vécu.
Voilà. Malheureusement, je pense qu'il y en a trop qui attendent de faire une bêtise pour s'y pencher. Oui. Et du coup, ouais, c'est important d'être accompagné ou de se renseigner un minimum pour bien préparer les choses. Et du coup, admettons, là, la personne qui nous écoute vient de se rendre compte que rien n'était fait, qu'il n'y avait aucune sécurité financière. Par quoi commencer pour pas justement se sentir submergé par cette notion de sécurité financière ? Par quoi commencer quand on est entrepreneur pour vraiment soit on a déjà tout ce que tu as cité en place et c'est tant mieux, mais on veut améliorer. Quels sont tes conseils, en fait, pour quelqu'un qui a vraiment envie de prendre en main, peut-être au-delà des premières choses à mettre en place, sa sécurité financière ?
Après, alors c'est vrai que j'ai parlé du contrat prévoyance, mais en fait, il y a une autre façon, en fait, de faire cette protection aussi, qui est un peu plus... incertaine, puisque ça dépend du montant qu'on a, mais c'est se créer une trésorerie, déjà. Après, c'est toujours difficile de se créer une trésorerie en début d'activité. Donc voilà, parce que tout simplement, on démarre, donc on n'a pas trop de clients, etc., ça, c'est crescendo. Mais une entreprise, par contre, j'en fais pas une règle générale, qui fonctionne dès le début, elle a tout intérêt, et souvent quand il y a le chômage notamment, à faire de la trésorerie. Voilà, de pas toucher à la limite de la rémunération, mais de constituer une trésorerie, parce que ça aussi, c'est une forme de protection. Okay.
Et la trésorerie qui est du coup sur le compte de l'entrepreneur et qui grossit au fur et à mesure des mois parce qu'il y a plus de rentrée d'argent que de sortie, si elle est sur le compte de l'entreprise, c'est de la sécurité ou est-ce qu'à titre d'entrepreneur, il faut, pour que ça devienne vraiment une vraie sécurité, peut-être l'épargner ou quelque chose comme ça?
Alors, ça va, là, ça va, faut aller un peu plus loin parce qu'en fait, c'est comme un particulier, il y a deux sortes d'épargne, même pour de la trésorerie. Il y a celle qu'on garde pour un besoin de fonds de roulement, donc le BFR, c'est tout simplement ce que j'ai besoin pour fonctionner si j'ai un mois creux ou que mon client il décale, il paye à 30 jours, à 60 jours, etc. Donc, c'est toujours pour éviter d'être dans le rouge. Voilà, donc ça déjà, ça s'étudie, hein, c'est important. Et ensuite, voir aussi une épargne de sécurité pour, comme on a vécu par exemple le Covid, pendant 3-4 mois où tout a été fermé, ben là, les personnes qui avaient de la trésorerie, ils ont pu survivre. Ceux qui n'en avaient pas, ça a été très compliqué. Bon, même si je passe les aides de l'État, etc., mais ça peut être délicat. Une fois que ça, c'est finalement, enfin, que c'est fait, que c'est déjà, voilà, constitué. Là, on peut aller optimiser sa trésorerie pour aller l'épargner sur certaines choses, pour aller sur de la rentabilité, aller sur de l'investissement. Il y a des entreprises, des grosses entreprises, enfin des grosses, c'est pas les micro-entreprises qui le font, mais des entreprises qui investissent dans l'immobilier aussi via l'entreprise. Enfin, bon, voilà, il y a des montages aussi où on peut aller un peu plus loin, mais il faut avoir quand même vraiment cette épargne, cette trésorerie de précaution, je l'appelle aussi, pour faire face au fonctionnement de l'entreprise. Ok?
Et ouais.
Voilà.
Mais bon, ça peut déjà être rassurant, je pense, pour les entrepreneurs de se dire que à partir du moment où ils voient leur trésorerie augmenter petit à petit chaque mois, c'est déjà de la sécurité financière. Et parce que c'est vrai que sur les réseaux, parfois, on voit tellement de comptes où il y a des chiffres à 6, 7, 7 chiffres. Et du coup, on peut avoir l'impression de pas du tout être en sécurité parce qu'on ne fait pas autant qu'une personne, etc. Et en fait, ça se fait petit à petit en faisant attention de réguler ses dépenses et ses rentrées d'argent. Et
Complètement.
le fait, je pense, d'avoir déjà un compte séparé. Bon, quand on est en société, on est obligé. En micro, je ne sais plus si c'est encore obligatoire ou non. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose. En tout cas, moi, quand j'étais en micro, j'avais fait un compte micro. Et je trouve ça hyper rassurant. Et ça permet d'avoir vraiment une vue et voir l'évolution de la trésorerie et de quand on est au chômage, comme tu le disais, sur un an ou deux, les premières années, on peut profiter du chômage et ne pas avoir besoin de toucher à ce qu'on gagne en micro-entreprise. Et le fait de se séparer, bah, ça nous permet d'être sûr de ne pas taper dans ça et de voir sa trésorerie augmenter. Et une fois qu'on n'a plus le chômage, et ben là, on arrive justement sur une sécurité. Tu as utilisé le terme là, comment on appelle ça, quand on sait qu'on a 3 ou 6 mois d'avance.
L'épargne de précaution, fait la
Voilà,
trésorerie
c'est ça
de
l'épargne ou la trésorerie de précaution. Ben c'est hyper rassurant et je trouve que ça permet aussi de donner confiance à l'entrepreneur pour investir dans d'autres choses qui vont le faire encore plus grossir, en sous-traitant des choses, en investissement. Quand tu parlais d'immobilier, ça peut être aussi dans d'autres choses, même dans un coaching pour encore plus évoluer derrière et augmenter sa trésorerie, etc. Et moi, j'avais fait ça aussi avant de me lancer, quand j'étais déjà en micro-entreprise, mais avant de quitter mon salariat, je m'étais dit, parce que forcément, il y a les petites peurs qui viennent et tout, je m'étais dit, bon, ok, j'ai ça de trésor, si je la découpe en 6 mois, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que j'ai suffisamment, machin et tout? Et pourtant, j'avais 22 ans et j'étais fière de me dire, je peux savoir, j'ai une visibilité sur ma trésorerie de précaution parce que j'ai eu le bon réflexe de tout de suite segmenter mon compte perso et le compte de la micro-entreprise pour derrière, alors qu'à l'époque, je ne savais même pas que j'allais demander une rupture conventionnelle si vite, etc. Mais ça a été vraiment une astuce que j'ai eue qui m'a sauvée parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de me dire, OK, j'ai tant d'avance, je peux le faire. Et pareil pour un investissement aujourd'hui, quand j'investis dans une coach ou dans une nouvelle formation ou quelque chose comme ça. Et donc,
Bien sûr.
segmenter pour avoir de la clarté sur nos finances, je pense que c'est vraiment quelque chose de trop important.
Mais clairement, c'est avoir de la sérénité et s'enlever ce souci de est-ce que je vais avoir assez, quoi? Est-ce que je vais pouvoir faire ci? Est-ce comment je vais. Enfin, en fait, on est tous pas toutes passées. toutes, pardon, je parle beaucoup au féminin, je ne sais pas s'il y a que des
femmes. C'est pas grave, il n'y a quasiment que des femmes qui m'écoutent.
Ouais, j'ai tendance à parler au féminin. On est tous passés, quand on a créé son entreprise, quelle qu'elle soit, au stade, est-ce que je vais pouvoir me rémunérer? Est-ce que je vais pouvoir me sortir un salaire? Je pense qu'on est toutes passées par là. Et ça met du stress, clairement. Ça met du stress, de l'angoisse. Enfin, moi, je l'ai vécu, hein, bien sûr. Et du coup, on n'est pas serein. On avance, mais on avance sur un fil, quoi, clairement. Sans filer, justement. Alors que quand on sait que, bon, voilà, qu'on fait ses comptes, qu'on tient ses comptes, et même en micro, hein, on ne parle pas de statut, c'est vraiment même les micros, je vous conseille fortement de faire une différenciation de vos revenus, même de tenir des comptes, enfin de tenir comme un comptable, hein, vraiment faire un bilan comptable, enfin hein, c'est ça n'empêche, hein, pas un truc de, il y a des applications maintenant qui existent et tout qui sont super bien faites, qui coûtent pas cher et franchement ça aide tellement à y voir plus clair et du coup pour revenir à ce que tu disais, à avoir vraiment la visibilité et la sérénité quoi en fait.
Ouais. Et souvent, je pense que, parce qu'on en reviendra après, mais on a beaucoup de peurs et de croyances avec l'argent et on a difficilement envie de regarder ses comptes et voir ses dépenses, etc. Mais je pense que quel que soit notre statut, à partir du moment où on veut vraiment prendre en main notre gestion financière, notre sécurité financière, il est primordial de faire un tableau de charges fixes et de lister tous les coûts qu'on a de manière mensuelle, de voir s'il y a des choses peut-être qui ne servent pas finalement, et de faire le point là-dessus pour savoir, bah, ok, tous les mois, il y a 500 euros qui partent dans des frais, des coûts fixes, et j'ai pas le choix. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 500 euros qui rentrent tous les mois, et donc, si je veux me rémunérer, il faut que je fasse au moins tant de chiffre d'affaires. Et ça, je pense que les frais fixes, c'est un truc qui est pas assez pris en considération quand on se lance, on dit « Oh tiens, je vais prendre un truc sur Canva, puis je vais prendre ça, puis je vais prendre ça, puis je vais prendre ça. » Puis à la fin du mois, on se retrouve dans le rouge à se dire « Mais comment mais je comprends pas, ça a coûté que 9 euros. » Ouais, mais c'est 9 euros tous les mois, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fait, ça monte tellement vite. Et du coup, je vais parler de… J'ai vu que tu proposais un freebie à télécharger qui a un budget planeur. Et ça, je pense que clairement, pour commencer, parce que la question qui était « Par quoi commencer ?» Bah, je trouve ça vachement, moi je l'ai mis en place il n'y a pas longtemps, je trouve que c'est super cool pour déjà se réconcilier avec nos comptes, se réconcilier avec l'argent et faire, comment dire, le fait de mettre sur le papier ce qu'on gagne, clairement détaillé, ce qu'on dépense, clairement détaillé tous les mois, ce qui est fixe, ce qui est moins fixe, ce qui est variable, etc. Ça met tellement de clarté que soit on se rend compte que bah, finalement on est plutôt pas mal, on est économe et tant mieux, soit peut-être qu'on charge un peu trop sur les dépenses et le fait d'avoir tout à plat, bah, ça évite les doutes et de s'y perdre et de se rendre compte trop tard en fait qu'on tire trop sur nos comptes. Et du coup, dans ton planeur qu'on peut télécharger hein, sur ton compte Instagram,
oui, c'est ça.
Je sais pas si tu veux rajouter des choses par rapport à ça pour nous le détailler un peu et toi comment tu le conseilles justement quand on débute pour
bien sûr
dédramatiser aussi hein, tout ça.
Complètement. Alors oui, en effet, c'est un budget planeur alors qui est plus axé sur nos finances personnelles.
D'accord. Donc
qui peut être adapté finalement à nos finances professionnelles aussi hein, finalement hein, quand j'y pense. Je devrais peut-être en faire un pour les pros, t'es. Ça m'a donné
hop, une idée. Ouais.
Merci. Très intéressant. Mais voilà, mais du coup, déjà, de savoir comment on gère son argent personnel, c'est la base, quoi. Parce que souvent, ce que je vois, moi, dans mes rendez-vous, c'est que quand elles ne savent pas gérer leur compte pro, par exemple, la question « Combien vous avez de charges professionnelles ?», elles ne savent pas me répondre à part « Alors, attends, j'ai ça. » Là, elles s'y penchent dessus, elles y réfléchissent, mais elles ne savent pas. Normalement, on devrait savoir à peu près. Du tac au tac, on devrait savoir à peu près répondre. Mais du coup, ce qui traduit que dans leur perso, ce n'est pas fait aussi. Voilà, souvent c'est ça. Donc déjà commencer sur le perso, c'est énorme. Et ça vous permet, comme tu disais, de vraiment acter les choses et de voir nos dépenses, de se rendre compte des choses et de peut-être même nos capacités à épargner. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte. Bon, tout le monde peut épargner. Tout le monde. Tout le monde. Il ne faut pas croire.
Hein. Souvent, on a tendance à faire l'autruche parce qu'il y a des peurs. Des personnes dans mon entourage qui sont dans le rouge tous les mois et qui sont paniquées et qui n'osent pas regarder leur compte parce que vraiment, de se connecter à leur compte bancaire, c'est traumatisant. Mais je pense que c'est juste parce que, bon, déjà, il y a d'énormes blocages hein, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue peur, etc. Mais c'est pire de faire ça. Parce que du coup, on ne se rend pas compte de ce qu'on dépense, on ne sait pas où on va, quoi. Enfin, c'est avancer dans le noir, quoi. Mais ouais. Moi, je pourrais pas. Enfin, ça me fait trop peur de faire ça.
Après, c'est une question d'éducation aussi de personnes. Hein. Moi, pour un petit exemple, pour vous dire, donc toi, je pense que tu étais quelqu'un qui, dès le début, a très jeune, en fait, a eu ce réflexe de faire...
Ouais, bah ouais, parce qu'à 16 ans, j'étais saisonnière, je mettais de côté, je faisais attention. Bon, on ne parlait pas trop d'argent en famille. Enfin, je ne savais pas combien mes parents gagnaient et tout. C'est quand même... Les chiffres, c'était un peu tabou, mais par contre, la notion de faire attention, de mettre de côté et de ne pas dépenser, c'était important.
D'accord.
On n'avait pas de chiffres, mais on avait des valeurs quand même de bah, 16 ans, dès que tu peux, tu vas travailler, tu mets de côté si tu veux, du coup, après, t'acheter des vêtements, bah, c'est avec ça. Voilà, pour nous responsabiliser, en fait, avec mes soeurs, on était vraiment responsables de nos dépenses et de ce qu'on gagnait. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de parler d'argent, que je n'ai pas peur d'investir. Parce que ben, le fait que ce soit que j'ai travaillé tôt, ben, en fait, j'ai vite mis de côté. Et alors oui, je sais me faire plaisir, mais je sais que si j'épargne, c'est aussi me faire plaisir pour l'avenir, en fait. Ouais. Donc, j'ai vraiment cette balance entre les deux, entre je me fais plaisir parce que j'ai travaillé tôt. Ouais. Donc, sur l'instant, il faut quand même que je me récompense. Mais par contre, sur le futur, quelle vie je veux avoir. Et du coup, si je mets de côté, c'est aussi une récompense et une fierté.
Bien sûr, exactement. Et ça, c'est la meilleure des choses, parce que pour ne pas créer de frustration, que ce soit de l'un ou de l'autre. Mm-hmm. Moi, tu vois, par rapport à toi, pour celles à qui ça va parler, qui n'ont pas ça dès le début de leur vie, on va dire, moi, donc ma famille, c'était... ils travaillaient tous les deux, mon père, ma mère, mais c'était tout le temps « j'ai pas assez » ou « il faut payer encore ça, les factures ». On parle jamais d'épargne, je sais même pas si mes parents ont épargné en vrai. Je crois pas, enfin, de leur vécu là, dans leur vie où j'étais enfant en tout cas. Donc je suis arrivée dans la vie, mais moi je jamais... Alors là, je sais pas comment... J'avais mon premier salaire, aucun budget, je regardais rien, et pas d'épargne, sûrement pas d'épargne. Et du coup, je dépensais tout ce que j'avais, même plus, voilà. Même plus, parce que je n'avais pas de budget. Et donc, il a fallu que j'arrive à l'âge de, je ne sais plus exactement, mais on va dire 33 ans, pour m'y pencher dessus. J'ai eu un déclic, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Bon, bref, un changement de vie, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai voulu commencer à épargner. Et là, j'ai commencé à faire, en effet, des budgets, enfin, voilà, tout noter. Voilà, j'ai commencé par là. Hein. Et après, je me suis dit, ah, mais en fait, il reste de l'argent. Mais pourquoi tu ne mets pas de côté cet argent ? Et en fait, j'ai commencé petit. C'est-à-dire que j'ai commencé vraiment des petites sommes, même 10 euros, c'est rien. Mais voilà, c'est juste le faire, déjà passer à l'action. Et après, je me suis dit, ben, tous les deux mois ou trois mois, ben, je vais augmenter. Si je trouve que je suis dans le confort, toujours que je ne suis pas à découvert, ben, je vais augmenter. Et j'ai augmenté, et j'ai augmenté, et j'ai augmenté, et j'ai pas arrêté. Donc, c'est que je me suis dit, en fait, au final, ben, tu peux. C'est juste nous qui nous mettons des barrières, finalement, quoi. Mmh. Encore une fois. Ok, donc voilà, mais il faut faire progressivement, il ne faut pas faire tout d'un coup, ça c'est que ça soit pour tout dans la vie, hein. Quelqu'un qui veut se mettre au sport du coup du jour au lendemain et qui fait 7 jours sur 7 du sport, il va être dégoûté, il va créer de la frustration de notre côté, d'un déséquilibre et bim, il va arrêter au bout de 3 mois quoi. Voilà, et c'est pareil avec l'argent, il faut y aller étape par étape.
Et puis il ne faut pas avoir ça comme quelque chose de mal, comme je te disais en off, moi j'ai beaucoup de clients dans le monde du bien-être et c'est vrai que ça paraît un peu tabou et de parler d'argent, d'épargner, d'avoir des sous sur son compte, c'est souvent des croyances qui sont bien ancrées, qui viennent de l'éducation, qui viennent de peur d'avoir en fait, alors que... on peut le voir complètement différemment et tu m'as dit que voilà, toi aussi tu avais beaucoup de personnes dans ce cas-là. Quel est pour toi le conseil ou peut-être des phrases justement pour shifter un peu ces croyances-là quand on est dans le bien-être et qu'on a peur en fait de vouloir gagner de l'argent déjà, avant même d'avoir de l'argent, on a peur de vouloir gagner de l'argent parce qu'on se dit « ah ben non, mais je suis dans le bien-être, je fais du bien, l'argent c'est mal ».
Ouais, j'ai beaucoup de cas et j'ai eu pensé ça aussi, moi aussi je me suis limitée beaucoup parce que oui, l'argent on le voit mauvais. D'ailleurs, il y a une phrase qui est dite souvent, alors j'arrive pas à la trouver exactement, c'est t'as vu, maintenant qu'elle a de l'argent, c'est une mauvaise personne, ou enfin, non, c'est pas ça exactement, j'arrive pas à trouver les phrases type là qu'on dit, ouais, il pue l'argent aussi, ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est toujours des connotations négatives. Ouais. Voilà, donc déjà, c'est des croyances limitantes qu'on va entendre toute sa vie. Enfin, en tout cas, principalement. Alors qu'en fait, l'argent, il peut être tellement beau, en fait.
C'est
Mais
clair.
Ça dépend comment on va l'interpréter. Donc, moi aussi, je me limitais. Donc, quand j'ai voulu démarrer mon activité entrepreneuriale, notamment, pour vous faire la petite histoire, j'étais dans le marketing de réseau, donc la vente de produits. Et il y avait des chiffres assez exorbitants sur des personnes au-dessus de moi, des leaders. Et moi, je me disais, « Oh mais non, mais moi, je ne veux pas faire pour ça. Hein. Non, moi, je ne veux pas arriver à cette somme-là, mais je veux juste transmettre du bien-être. » Enfin, voilà, j'avais...
Ouais.
En effet, je vais donner... Mais en fait, rien n'est incompatible. On peut très bien être une merveilleuse personne, faire du bien autour de soi, dans le bien-être et apporter de belles valeurs, mais aussi être riche et avoir de l'argent.
Bah, puis en
Voilà.
plus, plus on a la capacité de proposer des choses qui vont encore plus diffuser le bien-être qu'on peut diffuser,
Ouais.
en fait.
Non, mais tellement. Alors, moi aussi, donc, en fait, donc, l'argent, bon, j'ai travaillé sur moi, sur ça, et j'ai débloqué en me disant, mais en fait, cet argent, il va être utile aussi à mon mari, parce que je vais le dégager financièrement de son poste de salarié qu'il ne peut plus se voir. Donc, je vais l'aider à arrêter. Je vais aussi aider peut-être ma fille qui grandira, ma mère aussi, qui a une petite retraite. Donc, je l'ai appropriée aux autres aussi. Et plus grande échelle aussi, enfin ça c'est pas moi personnellement, mais quand je parle avec certaines personnes, c'est par exemple, si je prends l'exemple, moi je ferai un séminaire à mes clientes et je leur offrirai. Voilà, je louerai une magnifique maison en pleine nature, je ferai des interventions par des conférenciers et tout ça je leur offrirai. Donc c'est, mais avec l'argent qu'on aura gagné.
Ouais.
On ne peut pas le faire si on est juste comme ça. D'accord?
Mais souvent,
Voilà.
On pense que quand on a de l'argent, on devient égoïste et qu'il est qu'à nous et que voilà, c'est du coup, on se différencie des autres et que du coup, c'est pas juste et ceci, cela. Alors que non, c'est en fait, quand on a de l'argent, ça veut dire qu'on va pouvoir payer plus de acheter plus de choses. Et quand on achète quelque chose à quelqu'un, bah, on le soutient.
Oui,
si on n'avait pas l'argent pour l'acheter, la chose, bah, la personne, elle aurait personne qui achète. Et inversement, quoi. En fait, quand on a de l'argent, en fait, ça circule, tout
Ben
circule,
voilà.
et tout se diffuse, et il y a rien de
Ben
tabou. Et j'aimerais tellement que ça soit le cas et que les personnes prennent conscience
oui.
de ça. Et
Ouais.
je pense qu'il y a de plus en plus de personnes comme toi qui justement vont permettre aux entrepreneurs qui sont seuls, qui ont des peurs, qui ne sont pas à l'aise avec tout ça, de commencer à se réconcilier avec l'argent, de dédramatiser tout ce monde-là. Et que ça soit vraiment plus d'abondance, clairement,
Oui,
on le souhaite,
clairement.
que l'abondance soit là et sans tabou et de manière sécurisée et pas en mode YOLO, vas-y, tu pourras.
Oui, on verra bien. C'est ça.
Et du coup, je pense qu'on pourrait en parler des heures parce qu'il y a tellement de sujets à évoquer, mais je pense que déjà, ça fait pas mal d'infos pour l'audience. Si on a envie d'être accompagné et que voilà, on sait que voilà, on a mis un peu de clarté personnelle dans nos dépenses d'entrepreneur personnel, on a envie vraiment de prendre en main ses finances, comment toi tu accompagnes? Est-ce qu'il faut être accompagné sur le long terme? Est-ce que c'est du one shot? Voilà, dis-nous un petit peu comment t'accompagnes.
Bien sûr. Alors, moi, ce qui m'est venu dans ce moment d'échange, c'est un peu si quand on voit la finance d'ordre général, la montagne, en fait, il faut monter au sommet. Et en fait, moi, je suis un peu le guide, quoi, de montagne. Voilà, pour l'image. Je sais pas, ça m'est venu, donc je partage. Mais non, après, donc, plus sérieusement, donc moi, je propose des audits. Des audits, que j'appelle ça 360, où on va regarder justement tout autour de vous, le côté financier, bien sûr, mais que ça soit familial, que ça soit professionnel, voilà, on va brasser pas mal de choses. Dans un premier temps, pour regarder la protection. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'avenir, finalement. Comment vous voyez les choses pour la retraite, par exemple. Donc, on va parler de vision aussi un petit peu. Et ensuite, la troisième partie, ça sera quand même aussi tout ce qui est lié à l'argent, clairement. Hein. Voilà, est-ce que j'ai déjà de l'argent de côté? Est-ce que j'en ai pas du tout? Je veux commencer. Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée et d'être soutenue sur cette stratégie-là? Voilà, tout en ensuite regardant aussi, c'est important pour moi, le besoin. Donc, en fait, je projette les personnes dans des situations pas très confortables, hein, donc dramatiques même, je dirais, pour qu'elles se rendent compte finalement, qu'elles soient sensibilisées à ce qui peut se passer dans la vie, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement, et qu'est-ce que j'ai besoin moi pour être sécurisée. Voilà, donc c'est cet audit-là que je propose. Donc, ça se fait en deux rendez-vous. Première partie, donc la découverte. Deuxième partie, une fois que j'aurai travaillé sur l'audit, la présentation et les solutions qui sont préconisées sur mesure.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est gratuit. Donc toute cette approche-là est gratuite. Bien sûr, je ne travaille pas bénévolement, hein, pour en revenir à l'argent. je suis rémunérée, bien sûr, mais par les partenaires avec qui je travaille. Donc voilà, sous forme de commission. Donc vous, ça ne vous coûte rien à part les solutions que vous, si vous souhaitez mettre en place. Uniquement.
D'accord.
Et ensuite, important. En effet, c'est pas du one shot. C'est vraiment de l'accompagnement. Tout le temps. Parce que, en fait, par exemple, si je reviens au contrat prévoyance, c'est quelque chose qui doit être revu régulièrement, puisque les droits ne sont plus les mêmes, les besoins ne sont plus les mêmes, la vie n'est plus la même.
Et puis, donc, l'évolution du chiffre d'affaires aussi, il me semble, hein, qui est important de mettre à jour.
Voilà, ce que je vois, moi, souvent, c'est, en effet, la personne s'est assurée en début d'activité, 4 ans après, elle n'a jamais été revue par son conseiller. Ça, c'est inadmissible. Voilà. Et c'est ce qui est pratiqué sur des assureurs lambda, quoi. Donc voilà, d'accompagnement, des questions au moment des impôts, je suis là, au moment de vie dramatique comme la mort d'un parent, par exemple, la succession, on se pose des questions, je suis là. Voilà, parce que bien sûr, on n'a pas parlé de ça, mais il y a le côté fiscalité et succession aussi qui est hyper important. Donc voilà, je suis là toujours en support et en arbitrage aussi pour l'épargne, voilà, quand il y a des choses qui doivent être faites, etc. etc. Voilà.
Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais, ton Instagram, bien évidemment, où tu partages quand même pas mal de conseils, où on va pouvoir télécharger justement tes petites feuilles, tes petites fiches budget pour commencer à y voir plus clair. Donc, c'est au nom de Protège ton Biz.
Exactement.
Est-ce que on te contacte du coup directement sur Instagram? Est-ce que tu as un site internet?
J'ai un site internet où on peut retrouver vraiment tout ce que je viens d'expliquer. Et aussi, après, bon, on peut m'écrire avec grand plaisir, je réponds hein, très très vite. Ça, c'est, j'essaye de répondre à tout le monde en tout cas. Voilà. Mais sinon, après, il y a les calendriers aussi où on peut prendre rendez-vous directement. Voilà, comme je dis, l'audit il est gratuit, ça ne vous coûte que du temps déjà pour vous renseigner et savoir s'il y a besoin ou pas. Parce que s'il n'y a pas besoin, ben. Et tant mieux, hein. Mais déjà de savoir, comme je dis, c'est pouvoir mettre en place des choses ou pas.
Super, trop bien. Bon, de toute façon, je mettrai tous tes petits liens en description pour que les personnes puissent découvrir et réaliser un audit avec toi. Et j'insiste vraiment, faites-le, c'est trop important. Merci beaucoup pour cette introduction à tout ce monde qui est tellement important à prendre en compte, qui est la sécurité financière. C'était un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast et en plus, c'est ton premier et tu t'es super bien débrouillée, donc c'était top. Ben, merci beaucoup pour tout ça et puis hâte de voir les retours de nos auditeurs.
Oui, à très bientôt, au revoir.
Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris « Intuition créative » dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur « S'abonner », bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section « Évaluation et avis ». Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.